foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur le Pasteur Aoul Lars. Bonjour, guten Abend, bonsoir. Vous êtes responsable de l'église allemande de Toulouse et plus précisément de la paroisse de Blagnac. L'église allemande, ça veut dire que vous venez de loin, du nord de l'Allemagne?
Oui, de loin, presque de la frontière danoise. 30
voilà.
Minutes de la frontière danoise.
Et vous êtes à Toulouse, à Blagnac, depuis déjà un certain temps. Et vous êtes venu pour vous occuper de cette paroisse. Il y a beaucoup d'Allemands qui travaillent à Toulouse. Et certains sont protestants luthériens et d'autres sont catholiques, un peu moins. Mais il y a donc les couples franco-allemands et les couples catholiques et protestants. C'est une grosse activité, plus l'activité de la confirmation, et puis vous êtes très actif aussi au niveau de la chorale. Nous nous étions rencontrés au comité interconfessionnel il y a bientôt un an, et puis ensuite la semaine de préparation pour l'unité des chrétiens, et aussi cette grande fête de Saint-Nicolas dont vous allez nous parler. C'est vraiment un honneur et un plaisir que vous veniez ici nous présenter votre paroisse et toutes vos activités. Alors, la première question que j'aime bien poser à nos amis qui viennent, c'est « Ma foi, j'y crois ». Vous êtes pasteur, comment ça vous est venu, cette mission, cette fonction? En Allemagne, on dit « fonctionnaire du culte », c'est pas pareil, n'est-ce pas?
Oui, je suis fonctionnaire de l'église allemande. C'est un peu différent qu'en France, parce que je suis comme un fonctionnaire officiellement de l'église allemande.
Payé
et je suis
par
envoyé
l'État.
Par l'église en Allemagne pour m'occuper des chrétiens à Toulouse et en France du Sud-Ouest.
Voilà, donc s'occuper, ben, ça veut dire que c'est un travail à temps plein. Mais vous êtes venu avec femme et enfant, n'est-ce pas?
Oui, je suis marié, j'ai deux filles. Ma femme est enseignante à l'école allemande de Colombier, également pour les Allemands qui habitent à Toulouse et travaillent particulièrement pour Airbus et pour l'aéronautique. Comme notre paroissien. 80% de notre paroissien sont venus pour l'aéronautique.
Alors ça, c'est l'Europe qui se construit.
Oui.
Et c'est aussi l'Europe dans les cœurs et dans l'œcuménisme. Mais alors, cet appel, parce qu'on dit en France être prêtre, c'est une vocation, c'est une longue préparation. Oui. Et vous avez fait des études de théologie.
Oui, j'ai étudié à Hambourg pendant 6 ans. Et après, j'ai fait une formation pratique à la côte de la mer Baltique pendant 2 ans. Et après, j'ai fait mon deuxième examen et je suis envoyé à Schleswig, en Allemagne du Nord, pour m'occuper d'une paroisse rurale pendant 13 ans.
C'est le département de Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein, ça c'est le land de Schleswig-Holstein, oui. Et c'est une petite paroisse rurale. Et j'ai rencontré la foi et l'église et la paroisse à Lübeck, où je suis né. J'ai 17 ans que j'ai rejoint un groupe de jeunes de la paroisse de la cathédrale de Lübeck. Et j'ai fait beaucoup de voyages à Thésée qui m'impressionnait et qui me marquait très fondamentalement. Et j'ai chanté beaucoup de chants dans la chorale de la cathédrale. Et après quelques années, je me suis demandé quoi faire après le bac et pourquoi pas m'occuper des chrétiens d'une paroisse, de faire le travail dans la paroisse que je suis très, très content de faire parce que je ne peux pas imaginer faire autre chose comme pasteur que de m'occuper d'une paroisse.
Ça, c'est une responsabilité, mais un grand épanouissement.
Oui.
C'était à Thésée, c'était avant la chute du mur de Berlin.
Oui.
C'était...
Oui, et après...
Après le Concile Vatican II.
Oui, mais c'est en 1997,
97,
oui,
c'est ça.
Oui, plus ou moins, ouais. quand j'étais jeune. Je suis allé quand j'ai 17 ans, 18 ans, 20 ans. Pendant
alors justement, études. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un grand défi qui concerne autant les catholiques que les protestants. C'est que, je disais, un sondage, pas seulement dans La Croix, mais dans le journal protestant Réforme, que 27% des Français possèdent une Bible dans leur foyer en 1922. Et en fait, c'était 37% en 2010 et 42% en 2000. C'est donc un résultat qui a été fait par sondage assez précis, mais ça montre bien la baisse considérable en une vingtaine d'années du décrochage de la population par rapport aux mots, aux personnages, aux symboles. Alors, votre formation, elle est utile, mais est-ce qu'elle n'est pas caduque, dépassée ?
Ah oui, c'est très dommage que l'importance de l'Église diminue de plus en plus. Ça c'est dommage. Et ça c'est en Allemagne, ça c'est pareil. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un développement de notre société de baisser l'importance de la foi en fait et de la Bible et de mal connaissance de notre fête et de notre culture et de notre foi. Et
ça ne fait pas baisser votre confiance en Dieu, ni votre enthousiasme, n'est-ce pas ?
Non, pas du tout.
Au contraire, c'est un défi.
Oui, c'est ça.
Et j'y crois et donc je travaille, j'y vais. Allons-y ensemble.
Je ne cesse pas de travailler, d'exprimer ma foi pour les autres. Donc, ça, c'est ma mission. Et
alors, justement, il y a ce temps fort qui est la confirmation. En allemand, on dit « Ah ben oui, mais il y a Firmung et Konfirmation ».
Oui.
Mais bon, en France, je crois qu'on dit la confirmation, c'est un peu ce rite de passage de l'adolescence.
Oui.
Vous préparez au mariage aussi ?
Non.
Un peu de catéchisme.
J'ai préparé les jeunes pour la confirmation et j'ai adapté la même manière que dans l'Église catholique. J'ai fait la préparation pour la confirmation dans deux étapes pour les enfants d'un âge de 8-10 ans pour la première étape et après j'ai fait une deuxième étape pour les ados pour faire la confirmation. C'est un peu pareil comme les catholiques.
D'accord. Et surtout, alors, pareil que les catholiques, je vais vous brancher sur quelque chose où nous avons débattu avec humour et avec un peu de réflexion théologique. C'est la Saint-Nicolas.
Ah oui.
Parce que je vous ai dit, mais alors comment ? Moi, je suis un sociologue du fait religieux, je m'intéresse aux rites et aux mythes. Et en fait, j'ai lu Luther et en fait, il dit bien qu'il faut s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Et alors, cette fête que vous avez préparée, c'était du temps après l'Avent, n'est-ce pas, le jour de la Saint-Nicolas.
Au début de l'Avent, voilà. En décembre, oui.
Grande fête pour les enfants,
oui,
et
beaucoup.
Puis le Père Noël est déguisé, et nous avons échangé du pain d'épices.
Oui, c'est ça.
Alors j'ai dit, mais alors, vous êtes protestant, et pourtant, vous fêtez Saint-Nicolas ?
Oui, ça semble un peu bizarre que nous célébrions la Saint-Nicolas, la fête de Saint-Nicolas, dans notre communauté allemande. Mais en effet, Luther a supprimé l'importance des saints. Selon la conception luthérienne, nous sommes tous des saints. Comme baptisés, nous sommes des saints.
Prêtres, prophètes,
oui,
et rois.
Oui, c'est ça.
Nous en avons parlé ici déjà souvent. Il faut l'interpréter, ces trois termes, dans le cadre de la laïcité française.
Oui. Et nous avons un accès direct au Dieu parce qu'on n'a pas besoin de médiateur. Le médiateur principal vers Dieu, c'est Jésus-Christ, en fait. Donc,
et ça, Marie, c'est pour vous ?
Oui, mais il y a bien sûr les personnes comme les saints, ce sont des gens derrière tout de même, Marie comme mère de Jésus, Michel comme ange de Dieu, Paul comme apôtre, Pierre comme disciple, etc. Ils sont des témoins et des modèles de foi pour nous, et importants quand
et
même.
Et n'oubliez pas Laurent, puisque là-haut, n'est-ce pas, vous me disiez, ben c'est Saint Laurent qui a été mis sur le grill au nom de sa foi.
Oui.
Aller jusqu'au bout. Oui. Dans ce témoignage, oui. Sans avoir peur de l'adversaire.
Oui, c'est ça. Et dans le cas de Nicolas, c'est une tradition populaire s'associer à l'évêque et à un modèle de l'amour, de charité. Et en Allemagne, les enfants mettent des bottes devant la porte en espérant qu'ils sont remplis par des chocolats, des petits cadeaux.
Des chaussures dans lesquelles on mettra les oranges.
Oui, oui, c'est ça.
Même du temps de l'Allemagne de l'Est.
Oui.
C'était aussi très fort.
Oui, c'est ça.
Comme aussi à Wittenberg, eh bien, il y avait accroché sur la porte ce que Luther avait demandé à Rome de modifier dans le fonctionnement institutionnel de l'Église. Et puis, à Wittenberg, il y avait aussi toute cette chorale. Et je me rappelle que c'est l'une des facultés de théologie où le régime marxiste finançait la formation théologique des pasteurs.
Oui.
N'est-ce pas ? C'est impensable en France depuis la loi de 1901. Mais dans l'Allemagne communiste, les pasteurs étaient financés, leurs études étaient financées par... Alors, puisque nous...
Comme toutes les universités en Allemagne, ce sont des universités officielles financées par l'État. En Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest.
Avant que nous ayons une pause parce que nous allons parler de la musique, je voudrais dire aussi qu'à Wittenberg actuellement, il y a un débat qu'on lit dans Réforme ou dans La Croix, c'est qu'il y a une sculpture très antisémite dans la ville de Luther. Et la Cour fédérale allemande de justice s'est opposée au retrait de ce qu'on a appelé la truie des Juifs, Schweine. Et Judenschwein, c'est un bas-relief médiéval qui montre bien cet antisémitisme qui a tellement longtemps baigné dans chez les catholiques, parce qu'on disait que le peuple juif est le déicide. Et en fait, la décision par la cour de Karlsruhe doit mettre un terme à une bataille judiciaire qui n'est peut-être pas finie, parce qu'il va y avoir une demande de recours. Et vous me disiez, je comprends la position, on ne va pas casser... les statuts des esclavagistes.
Et je trouve que c'est juste parce que c'est une souvenir de notre histoire, de l'antisémitisme de l'histoire. Et le but aujourd'hui de ne pas oublier notre histoire et de faire le mieux pour l'avenir. Donc c'est mieux de ne casser cette statue et de faire un panneau, de faire des trucs comme un panneau ou comme une autre sculpture.
Une explication comme on pourrait dire.
Pour montrer le contexte de cette sculpture.
Comme le texte de Mein Kampf. Parce qu'il y a toujours le texte, le contexte et le prétexte dans lequel on utilise cela. Or, en fait, Luther, jusqu'en 1546, a prêché pour la première fois en langue allemande.
Oui.
Ce qui expose des grands débats aussi chez les catholiques pour savoir si on pouvait prêcher en latin ou si on n'avait que la langue vernaculaire. Mais c'est le chant que vous nous avez apporté, que nous allons écouter tout de suite parce que ça nous permettra de faire la transition avec cette chorale des enfants, communiquer la joie.
Oui, ça c'est un chant de Paul Gerhardt, né en Saxe. C'est le plus important poète de la Réformation après Luther. C'est très connu en allemand, c'est populaire, c'est un cantique et une chanson, les deux.
Sich aus
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Monsieur le pasteur Aoul Lars, responsable de l'église allemande de Toulouse, plus précisément de la paroisse de Blagnac. Et vous vous occupez aussi d'une chorale avec les enfants, mais aussi les adultes. Alors, ce beau chant que vous nous avez apporté, c'est la louange terrestre, la beauté de la création. Nous avons beaucoup insisté dans cette radio présence, radio œcuménique, de la louange terrestre et de Laudato si. Et je veux dire juste quelques lignes. Mon cœur, en ce beau temps d'été, Dieu nous invite à la gaieté. Répandant dans ses largesses, voit la beauté de nos jardins qui, pour nos joies, dès le matin, se part de richesses. C'est en vers, c'est traduit dans le Sommergesand, chant d'été du psaume 104. Et on pourrait continuer longtemps cette louange de la création. Mais nous sommes en ce jour de canicule, en ce début de juin. C'est en fait la dernière émission de la saison 3 de Ma foi, j'y crois. Vous nous avez apporté un peu plus de fraîcheur parce que vous me dites, oui, mais ce qui m'importe beaucoup aussi, que je chante de tout mon cœur, c'est le psaume 23. Vous le dites en allemand, mais c'est « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Nous avons besoin vraiment de cela.
« Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Je ne crains pas le malheur, le Seigneur me conduit par le juste chemin. Combien de fois ici, dans cette radio, nous avons écouté nos amis musulmans qui nous disent que, oui, le Coran, c'est la juste voie quand je peux ne pas avoir peur d'être perdu dans le désert et de mourir de faim ou de mourir de soif. Donc, cette paix, cette joie du salut, vous l'apportez aux membres de votre communauté. C'est votre tâche principale. Et vous avez fait aussi un peu de psychologie. Alors, nous avons un débat pour savoir si le mariage est un sacrement. Nous avons un débat entre les catholiques et les protestants pour Beichte, la confession.
Oui.
Vous me dites, oui, c'est votre travail de pasteur, d'écouter.
Oui, il existe la confession également dans l'église protestante, mais c'est rarement demandé. Pendant mon travail, j'ai une fois reçu la demande d'une confession. Une fois, c'est pas trop. Mais beaucoup des entretiens pastoraux.
Et dans le culte aussi du dimanche, il y a cette demande de pardon.
Ah oui, bien sûr.
Merci,
oui.
À Dieu. Pardon. Et
souvent, au début du culte, le pardon, la confession et le pardon pendant la liturgie du culte, oui, en fait, c'est juste. Et pour la Saint-Cène.
Et en fait, vous n'avez pas trop l'occasion d'obsèques, parce que la plupart des paroissiens sont assez jeunes.
Oui.
Et ils retournent dans leur famille au moment de la retraite.
Oui, c'est ça. Notre paroisse est très, très, très jeune. On a presque que des familles avec des enfants, des gens qui travaillent encore. Et dans ma paroisse, j'ai que 11 personnes qui sont plus de 60 ans. Parce que la majorité de notre paroissien retourne en Allemagne après la retraite. Oui, ça c'est juste. Donc, heureusement, on a rarement des obsèques.
Et vous avez aussi un travail international, puisque vous me disiez dernièrement, on avait repoussé cette conversation, que vous êtes allé en Suède, où il y avait un grand nombre de pasteurs avec leurs familles.
Oui, je suis part de l'église évangélique en Allemagne, située en Hanovre, c'est notre siège officiel.
Hanovre, oui.
Oui. Et l'église évangélique d'Allemagne s'occupe de plus de 100 personnes, 100 pasteurs qui sont dans tout le monde. Il y a des pasteurs en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe.
L'Église universelle, j'allais dire catholique.
Oui, ce sont beaucoup de pasteurs qui s'occupent des chrétiens germanophones, comme nous, comme l'Église protestante à Toulouse. Et nous avons rencontré avec les pasteurs d'Europe de l'Ouest, Nord et l'Est, à Suède.
Oui, alors, bien sûr, si nous avions un peu plus de temps, nous pourrions parler de toute l'historique de la responsabilité du pasteur Casalis à Berlin ou bien des groupes charismatiques en France et en Allemagne. Je voudrais évoquer ici le travail important qui est fait au niveau de l'œcuménisme dans le comité interconfessionnel, car nous avons reçu ici le pasteur Minot et nous avons reçu aussi le pasteur Erizo.
Oui.
Et nous travaillons aussi avec certains groupes bibliques œcuméniques. Et je sais votre sensibilité très proche avec les communautés juives, puisque vous étiez venu ici, mais c'est un autre sujet, hein, dans le cadre de la réflexion sur la Bible ou sur les échanges. Alors, notre conversation va bientôt se terminer, mais je crois que vous vouliez dire, ah oui, on a quand même quelques difficultés linguistiques,
oui.
Et entre autres, lorsqu'on parle de la 7e, 8e classe, ou bien Abitur, n'est-ce pas? Alors en Allemagne, on dit la 7e, 8e classe, et en France, ben non, c'est la 3e, seconde, bac terminal.
Oui, on compte inverse. Nous comptons en haut, on commence avec la première classe et on termine avec la bac dans la 12e ou 13e classe, en fait. Oui.
Voilà, avec soit les lycées professionnels, c'est encore tout à fait autre chose.
Oui.
Les aspects très concrets. Du travail, pas seulement intellectuel, mais aussi l'effort qui est fait pour, dans les lycées allemands pour un travail oui, vraiment concret. C'était l'objet d'un autre débat. Mais
oui. Oui, oui. D'accord.
Et je voulais aussi que vous nous disiez votre joie de cette chorale des enfants, puisque vous aviez participé à la chorale avec les Malgaches et dans cette soirée festive œcuménique au temple. C'était pendant l'Avent.
C'est notre fête de Saint-Nicolas, en fait.
Mais il y a eu alors, je confonds, en janvier, la semaine pour l'unité.
Oui, c'était notre chorale, mais c'était des adultes qui chantent. Nous avons un petit chorale de 13-14 chanteurs et nous sommes très fiers que nous avons un petit chorale avec Fiona, notre directrice.
C'est ça.
Et c'était une joie de participer à ce moment de l'œcuménisme. Parce que nous sommes part de... En fait, nous sommes part de l'Église à Toulouse. Nous sommes en lien avec l'Église réformée. C'est un lien très fort parce qu'à l'époque, nous étions une branche de l'Église réformée. Et depuis 6-7 ans, nous sommes indépendants comme paroisse germanophone.
Et il faut signaler votre Gemeindebrief, n'est-ce pas ? La lettre de la communauté qui est de très, très belle qualité, avec des belles images.
Merci.
Mais c'est le moment de la prière de la fin, puisque vous m'avez dit que vous souhaitiez que nous prions ensemble pour la minute qui reste.
J'ai préparé une petite prière pour la fin. La vie en famille et en société, la force de l'amour et du pardon, la paix et la justice, tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie privée et publique. Seigneur Dieu, tu nous as appris que toutes nos actions ne sont rien sans ton amour. Envoie ton Esprit Saint et répand dans nos cœurs le don de l'amour, qui est le lien de la paix et de la perfection. Amen.
Amen. Merci, pour votre témoignage et votre
merci
choix.
Merci pour votre accueil.
Votre foi. Et merci à Christophe. Et nous concluons cette saison 3 qui sera rediffusée parfois pendant l'été. Et à bientôt pour la saison 4.